Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité largement consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Le ministre israélien de la Défense a déclaré avoir ordonné à l'armée de se préparer à étendre ses opérations au Liban. Il a prévenu les dirigeants libanais qu'Israël prendrait des territoires s'ils n'agissent pas contre le Hezbollah. L'armée israélienne a annoncé mener une vague de frappes à grande échelle à Téhéran, capitale de l'Iran, après l'attaque conjointe en Israël de l'Iran et du Hezbollah libanais. Conséquence de la guerre, elle provoque la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et c'est l'objet de notre dossier du jour à suivre. Treizième jour de guerre au Moyen-Orient, au Liban d'abord. Au moins 8 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque israélienne sur Beyrouth. Le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd'hui avoir ordonné à l'armée de se préparer à étendre ses opérations au Liban. Israël a prévenu les dirigeants libanais qu'Israël prendrait des territoires s'ils n'agissent pas contre le Hezbollah. Et Emmanuel Macron avait appelé hier Israël à clairement renoncer à une offensive terrestre au Liban et le Hezbollah a immédiatement mettre fin à ses attaques après s'être entretenu avec le président libanais Joseph Aoun. En Iran maintenant, l'armée israélienne a annoncé mener une vague de frappes à grande échelle à Téhéran, la capitale, après l'attaque conjointe en Israël de l'Iran et du Hezbollah libanais. Des bases militaires ont notamment été visées. Et le Golfe continue d'être ciblé par l'Iran. À Dubaï, des explosions ont été entendues ce matin. En Arabie Saoudite, un drone s'approchant des ambassades a été neutralisé. Au Koweït, l'aéroport de la capitale a été ciblé. Un immeuble résidentiel a pris feu après une frappe de drone. Et au Bahreïn, des réservoirs de pâtes de notamment ciblés. L'armée iranienne a dit vouloir frapper les centres économiques et les banques dans le Golfe, tandis que l'agence iranienne Tasnim a cité les géants américains de la tech comme de futures cibles de Téhéran, parmi lesquels Amazon, Google ou encore Microsoft. Et le président américain Donald Trump a déclaré, lui, que l'Iran était proche de la défaite et a averti que les États-Unis avaient la capacité de rendre toute reconstruction de l'Iran presque impossible. Conséquence de la guerre, maintenant, elle provoque la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, selon l'Agence internationale de l'énergie. Les pays du Golfe réduisent actuellement leur production pétrolière d'au moins 10 millions de barils par jour en raison du blocage du détroit d'Ormuz, un point stratégique. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, le dossier du jour. Cette guerre au Moyen-Orient dure et provoque une forte secousse sur les marchés de l'énergie, notamment avec le blocage du stratégique détroit d'Ormuz, passage clé pour le transport mondial de pétrole. Face à la flambée des prix, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé un déblocage record de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques. Emmanuel Macron s'est exprimé hier à ce sujet. On l'écoute.
Quelle est la bonne réponse à la crise que nous vivons? La première, qui est le plus vite possible, un arrêt des combats et qu'on puisse reprendre la route d'Ormuz en la sécurisant comme il faut dans un cadre qu'on est en train de préparer. Donc on fait déjà œuvre utile dans la durée. Deuxième chose, tant que nous n'avons pas ça, il faut pousser ceux qui peuvent à produire davantage, éviter tout dysfonctionnement de marché par des comportements inappropriés où les uns ou les autres réduisent les exports ou bloquent le commerce mondial, et faire des interventions techniques comme on vient de le faire en relâchant nos capacités stratégiques qui sont faites pour ça. Et puis au niveau national, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est d'abord de faire des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas des gens qui profitent de la situation pour monter un peu trop vite et trop fort les prix. Et c'est tout faire pour que la hausse se transmette le plus lentement possible dans les prix à la pompe, qu'ensuite, dès qu'il y a une baisse, elle redescende le plus vite possible dans les prix à la pompe, et d'engager les principaux distributeurs à essayer de tout faire à prix coûtant. Certains ont commencé à s'engager ces dernières heures dans ce sens, c'est une bonne chose. Puis le gouvernement, lui, renforcera les contrôles. Tout ça nous montre une chose. Ce qu'on est en train de vivre, c'est le coût de la dépendance. Et donc, quand vous m'entendez depuis des années parler de plus d'autonomie et de décarbonation, parce que la France ne produit pas du pétrole et du gaz sur son sol. Tout ce qu'on fait qui nous amène vers la transition, c'est réduire aussi la dépendance et donc notre exposition à des risques géopolitiques.
C'était le président français Emmanuel Macron. Et on fait le point maintenant sur cette perturbation historique de l'approvisionnement mondial en pétrole avec vous, Salma Dakhlaoui.
La guerre au Moyen-Orient provoque une onde de choc sur les marchés de l'énergie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la paralysie du détroit d'Ormuz représente déjà la plus importante perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole de l'histoire. Rappelons que le conflit a éclaté le 28 février après des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Depuis, les tensions se sont intensifiées dans la région du Golfe, un carrefour stratégique pour le transport des hydrocarbures. Résultat, plusieurs pays producteurs ont fortement réduit leur production. D'après un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les États du Golfe utilisent actuellement au moins 10 millions de barils par jour de moins, en raison du blocage du détroit d'Ormuz, un passage maritime essentiel désormais contrôlé par l'Iran. Face à la flambée des inquiétudes sur les marchés, les 32 pays membres de l'agence, dont la France et les États-Unis, ont annoncé mercredi un déblocage record de 400 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques. Une mesure destinée à calmer les marchés, mais dont l'efficacité reste incertaine. Les prix du pétrole continuent en effet de grimper. Ce matin, le baril de Brent européen approchait les 98 dollars, en hausse de plus de 6%. Le brut américain suivait la même tendance, autour de 92 dollars. Les marchés financiers restent, eux, aussi nerveux. À Tokyo, la bourse a terminé la séance en baisse d'environ 1%. Pour certains analystes, la décision de l'Agence internationale de l'énergie reste insuffisante face à l'ampleur de la crise. L'analyste Stephen Innes de SPI Asset Management, cité par l'AFP, compare même cette intervention à un tuyau d'arrosage pour éteindre l'incendie d'une raffinerie.
Et coup de projecteur maintenant sur l'implication de la France dans la guerre au Moyen-Orient. Quelle est la stratégie et le poids de la France dans ce conflit régional? Au micro de François-Xavier de Calonne, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique.
Les moyens dont dispose la France au Moyen-Orient sont relativement faibles. Ils sont d'autant plus faibles que l'Europe puissance, elle, pour l'instant, n'existe pas. Autrement dit, pour l'instant, dans la région, en dépit de la volonté, à mon avis, très légitime du président de la République d'embarquer d'autres États avec lui, on le voit d'ailleurs avec le groupe aéronaval qui a été envoyé sur place, puisque plusieurs frégates d'autres États européens ont accompagné le Charles de Gaulle. En dépit donc de tout cela, la France dispose de leviers assez faibles. Alors, une nuance tout de suite. Loin derrière les États-Unis, qui restent de très très loin, comme je le dis et je l'écris depuis des années, la seule et unique grande puissance du Moyen-Orient, très loin, mais juste après les États-Unis, la France est une puissance considérable.
Donc la France est le moteur en Europe.
Alors, Emmanuel Macron voudrait que la France fût moteur. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ça commence à s'affirmer ce rôle-là. Mais en tout cas, il ne faut pas ricaner les possibilités de la France, même si encore une fois elles sont bien moindres que celles des États-Unis. Pourquoi? Je le dis en deux mots, parce que d'abord nous avons un État allié, militairement allié, hein, avec une alliance défensive contraignante dans la région, les Émirats Arabes Unis. Nous avons une base aérienne en Jordanie.
C'est important, comme vous évoquez les Émirats Arabes Unis, ces accords qui ont été signés ces décennies précédentes, absolument, il y a eu plusieurs accords, ils jouent rôle particulièrement important aujourd'hui.
Ah bah oui, parce que les Émirats Arabes Unis ont reçu sur la tête des missiles iraniens et des drones iraniens. Donc pour l'instant, à ma connaissance, les Émirats n'ont pas demandé officiellement à la France d'enclencher en quelque sorte la dimension contraignante de cette alliance. Si cela se faisait ou si les Émirats étaient attaqués de manière beaucoup massive par l'Iran, il est bien évident que la France devrait intervenir, et intervenir militairement, directement. Vous voyez ? Donc si on ajoute à ça que la France dispose de leviers politiques à peu près partout dans la région, on n'est pas une puissance négligeable.
Cette guerre au Moyen-Orient risque-t-elle d'avoir des conséquences sociétales, notamment en Europe, notamment à Paris, lorsque vous écoutez par exemple les cadres de la France insoumise? Aujourd'hui des réactions au sein des composantes de la population française?
Alors, c'est une bonne question. Ce qui est en train de se passer en Iran et au Moyen-Orient ne changera pas la face du monde, mais ça va relancer les débats sur, d'une part, donc, la nécessité de ne pas ou de ne plus importer des conflits extérieurs dans nos sociétés occidentales. Et j'espère que c'est un débat qui sera tranché, notamment avec toute la force de la loi et de la pédagogie. Et deux, le débat sera relancé ou rouvert, j'espère en tout cas, sur le droit international. Je pense qu'il doit être amendé. Je pense que ce droit international protège trop les États et pas assez les populations.
C'était Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et auteur de l'ouvrage « La guerre mondiale n'aura pas lieu » chez Odile Jacob, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.